le plaisir de présenter un livre de Sophie Bessis, qui est son dernier opus, La Nuit de l'Impasse, donc l'universel à l'épreuve de fondamentalisme religieux et marchand, qui vient de sortir en octobre 2014, et dont on va parler d'une certaine conception de l'universel d'une façon qui nous amènerait à penser qu'il s'agit de concepts, de notions monopolisées par l'Occident. J'ai souligné aussi à l'attention de nos étudiants, c'est intéressant pour vous qui n'êtes pas spécialiste du monde arabe, mais qui vous intéressez aux thématiques de la modernité, de la modernisation et du développement d'un point de vue d'historien ou de géographe, c'est intéressant ce qu'on va voir aujourd'hui avec Sophie Bessis. Il s'agit d'une réflexion qui interroge, qui explore le monde arabe comme un laboratoire d'histoire globale. Donc on est vraiment dans l'histoire du temps présent, dans une réflexion qui unit à l'histoire et à la pensée sur l'histoire un militantisme qui n'a pas honte de dire qu'il faut quand même avoir des universaux positifs et penser les droits humains, et puis qui n'a pas honte de dire que quand même le monde arabe peut être juste un petit bout du monde tel qu'on le vit maintenant. Donc je vous remercie, je vous donne la parole. Et merci d'être là.
Moi, je suis un peu gêné de m'adresser à vous de cette tribune. Quelque chose d'un peu plus convivial dans la mesure où voilà, on est là pour débattre ensemble. Je vais mettre en débat un certain nombre d'idées que je développe dans ce livre et ça m'intéresse beaucoup de les mettre en débat avec vous, bien sûr. Et puis, désolé, je m'excuse, mais je vais parler du nez parce que j'ai un peu une carabinée. Donc, est-ce que vous excuserez à l'avance les quelques reniflements dont je parcellerai mon propos, je suis vraiment désolé. Bon, en m'invitant, Schlieff et Frédéric Agassi m'ont demandé de parler, à propos de ce bouquin, de l'universalisme en question. Effectivement, l'universalisme, l'universel, ou les universaux, sont, disons, ce qui parcourt, enfin, le questionnement sur les universaux contemporains, sont un peu l'idée qui parcourt mon travail. Parce que mon travail part d'un constat au départ, qui est que la crise du monde contemporain, supposée qu'on puisse encore l'appeler crise, dans la mesure où c'est un phénomène de longue durée. Mais appelons la crise pour faire plus vite, la crise du monde contemporain, disons que moi je fais remonter, j'expliquerai pourquoi si j'ai le temps, à la fin des années 1970, au début des années 1980, même si les prémices de cette crise sont évidemment beaucoup plus lointaines, eh bien, cette crise, cette mutation, remet profondément en question l'universalisme produit par la modernité. Cette modernité qui remonte, comme vous le savez, au XVIIe siècle en Europe. Et en fait, cette crise du monde contemporain, cette mutation du monde contemporain, si on préfère, est en bonne partie, à mon sens, une crise de la modernité. Ou en tout cas se traduit, se manifeste par une crise de la modernité. Et donc, si elle se manifeste par une crise de la modernité, cette crise du monde contemporain, elle se manifeste évidemment par la crise du socle de principes qualifiés dès leur énonciation de principes universels. Alors, pour moi, il y a une série de raisons qui ont conduit à cette éclipse de la modernité, qu'il faut aller chercher dans des champs extrêmement différents, et j'essaye d'en explorer quelques-uns. Mais, je ne vais pas les détailler maintenant, mais la question essentielle, à mon avis, qui se pose aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que l'universalisme, que l'Occident, en mon sens, a déserté, pour des raisons que j'essaierai d'analyser dans un instant, cet universalisme qui n'est plus l'apanage de l'Occident, parce que il l'a d'une certaine manière abandonné, est-ce que cet universalisme issu des Lumières a définitivement laissé la place à d'autres constructions qui structurent les évolutions actuelles, ou alors, est-ce que cet universalisme, ces universaux de la modernité, peuvent renaître sous d'autres formes, portées par d'autres discours et dans d'autres lieux que ceux de sa naissance? Voilà, c'est un petit peu, disons, les axes autour desquels j'essaye de faire tourner ce travail. Et je vais le décliner devant vous en quatre points. Le premier étant, puisque je vous le disais en introduction, cette éclipse des universaux de la modernité. pourquoi y a-t-il réellement éclipse et pourquoi cette éclipse? Parce que moi, je parle enfin, pas du postulat, de ce que j'estime être un constat, le constat de cette éclipse. En fait, ces universaux de la modernité, la question de leur validité s'est posée dès leur naissance, si l'on peut dire. La question de la validité de ces universaux est consubstantielle à leur naissance même. Alors, je ne parle pas, évidemment, des anti-modernes, des anti-lumières, comme les appellent Zefsternel, par exemple. Je laisse tomber de ce côté-là ces anti-lumières à la Burke, à la Herder, qui sont nées presque en même temps que les lumières et qui auraient été portées, vous savez, à leur acmé, évidemment, par le romantisme allemand. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. La question de quand j'ai dit que la question de la validité des universaux se pose dès leur naissance, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais disons qu'on peut dire que c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les critiques radicales de cette modernité et aussi des Lumières ont envahi le champ intellectuel. Et on peut, à mon sens, repérer deux périodes de cette critique des universaux de la modernité, deux périodes où cette critique ne prend ni les contenus ni les mêmes formes. C'est dans mon bouquin, c'est la seconde période que j'analyse le plus. Parce que le premier corpus de critique s'articule autour de trois points principaux. D'une part, et c'est pourquoi je vous disais que ces universaux ont été critiqués dès leur naissance, c'est que depuis leur énonciation, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle, enfin, anglais, XVIIIe siècle, français en gros, depuis leur énonciation, ces universaux ont connu une application sélective, puisque depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, les femmes et les peuples dominés ont été exclus des bénéfices des principes universels. Les femmes, les esclaves et les peuples dominés. Donc en fait, à la fois, ces universaux, l'énonciation de ces universaux sont une ouverture qui s'incarne dans une clôture, presque, pourrait-on dire. Donc ces universaux ont toujours eu ce côté paradoxal. Deuxième corpus de critique, c'est que la modernité portait en elle, comme seul horizon possible, une modernité instrumentale, dont les totalitarismes ont été les expressions les plus achevées, les plus délirantes et les plus achevées. C'est toutes les théories de la modernité instrumentale portées par l'école de Francfort, entre autres, bien sûr. Troisième élément de ce premier corpus de critique, c'est que la notion de progrès indéfini de la condition humaine, qui est d'ailleurs liée, très intimement liée à la conception occidentale du temps, bien sûr, eh bien, cette notion de progrès indéfini aboutit à la gestion totalement mortifère d'un monde fini. Il ne peut pas y avoir de progrès infini dans un monde fini. Et en définitive, cette contradiction entre la notion de progrès infini dans un monde fini s'est incarnée dans le caractère totalement insatiable du capitalisme actuel. Donc voilà, disons, les trois critiques, je pourrais dire, presque classiques de la modernité. Mais vous avez un deuxième corpus, à mon sens, de critiques qui ne sont pas liées forcément à ce premier corpus et qui s'est épanoui, ce deuxième corpus, à partir de la fin des années 1970, à mon sens, et surtout dans les années 1980. Et cette fin des années 66, ces années 80, voit se configurer un monde en rupture avec ces universaux de la modernité. Et qui se structure justement autour de ce que j'appelle les deux fondamentalismes, fondamentalisme du marché, fondamentalisme du religieux. Alors, les causes de ce tournant de la fin des années 70, du début des années 80, bien entendu, on peut trouver des prémices, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus lointaines, bien sûr. Mais vraiment, ce tournant c'est à ce moment-là. Ces causes sont multiples. Parmi les principales, je vois, je ne suis pas la seule à voir, évidemment, ça j'enfonce une porte ouverte, vous m'en excuserez, c'est juste un rappel, la fin du grand messianisme séculier qui a été le communisme, bien sûr, donc la faillite de ce grand messianisme laïque, et de toutes les références séculières qui se sont développées dans le giron, disons, de ce messianisme, c'est-à-dire tous les socialismes plus ou moins réalisés, jusqu'à, on peut dire, les nationalismes à dimension séculière, comme le nationalisme arabe, entre autres. Je ne parle pas de nationalisme laïque, je parle de nationalisme séculier, car je vois une différence tout à fait importante entre les deux. Donc cette faillite de ce messianisme laïque. Deuxième élément de ce tournant de la fin des années 70, qui est alors dans le champ économique, c'est la fin d'un capitalisme de production, d'un capitalisme national et régulé, qui a été mis en place à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en 1945, par la mise en place de l'institution de Bretton Woods, etc., et son remplacement, très rapide en fait. Le changement de paradigme du capitalisme à la fin des années 1970, c'est un changement de paradigme très rapide, même s'il a été préparé. Et donc, le remplacement de ce capitalisme, qu'on appelle un peu trop vite keynésien, mais disons national, régulateur, de production, son remplacement par un capitalisme financier, rentier, dérégulé, dont la mondialisation a été facilitée évidemment par la révolution numérique. Et donc, on a affaire aujourd'hui à un capitalisme très très différent du capitalisme qui a structuré le monde économique, disons, de la fin des années 40 à la fin des années 70. D'ailleurs, les deux, la fin des grands messianismes laïcs et la fin de ce capitalisme keynésien, ont des liens entre eux, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer. Et ces deux grands bouleversements, à mon sens, ont eu lieu dans le contexte d'une planète totalement transformée par une révolution démographique. C'est-à-dire que, rappelons-nous tout de même, et on a tendance, à mon sens, à occulter ou à minimiser ce phénomène majeur de notre temps, qui est que le XXe siècle a débuté avec moins de 2 milliards d'habitants sur notre planète et a terminé à 7 milliards. Jamais l'humanité n'avait connu une telle expansion au cours de l'histoire de l'Homo erectus. Et cette révolution démographique, qui n'est pas terminée d'ailleurs, puisque selon les dernières estimations des Nations Unies, le palier définitif se situera à environ 11 milliards d'êtres humains aux alentours de 2100, à peu près, puisque vous savez que les Nations Unies avaient estimé ce palier il y a quelques années à 2050 aux alentours de 9 milliards et a revu il y a un an totalement ses prévisions pour les remonter, puisqu'il y a des parties du monde qui ont à peine commencé leur transition démographique. Et donc, pourquoi je pense que cette révolution démographique est extrêmement intéressante? D'abord, elle a lieu essentiellement dans les suds du monde, bien sûr, et elle a fait éclater, en fait, toutes les structures sociales traditionnelles. Parce que cette explosion démographique s'est également accompagnée d'un phénomène d'urbanisation totalement inédit dans l'histoire. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale est une population, je l'appelle urbaine et pas citadine, puisque justement, l'urbain a remplacé le citadin dans ces énormes mégapoles que sont les grandes villes contemporaines. Donc, augmentation de la population et urbanisation qui a fait éclater toutes les structures sociales, qui a fait éclater tous les repères sociaux et culturels du monde d'avant, si je puis dire. Et qui, de ce fait, a contribué, avec les autres changements dont je parle, à précipiter des populations entières dans un véritable état d'anomie. Et c'est ce que j'essaye de développer. Donc, voilà un petit peu, disons, le cadre dans lequel, à mon avis, s'opère cette éclipse des universaux de la modernité. Et alors, de quelle façon ont émergé ces deux fondamentalismes dont je parle? Et c'est peut-être le deuxième point que je voudrais développer, ce que j'appelle la mondialisation contre l'universalisme. On a tendance à confondre aujourd'hui, soit du fait d'un discours relativement construit, mais du fait d'une imposture intellectuelle, à mon avis, la mondialisation avec l'universalisme. Et j'essaie de montrer dans ce travail que ce sont deux phénomènes totalement antinomiques, et que le transnational, le mondial, n'est pas universel, et que le mondial s'opère justement dans une opération de destruction des universaux. Et je vais essayer de résumer ce que j'essaie d'expliquer. Je prends le fondamentalisme du marché, le premier dont je parle. Alors, évidemment, le fondamentalisme du marché, il est mondial par définition, si je puis dire, puisqu'il est l'opérateur de la mondialisation, bien sûr, et puisque sa puissance est fondée sur la mondialisation. Et ce qui est extrêmement étonnant, ou en tout cas qui mérite réflexion et qui mérite questionnement, c'est que ce fondamentalisme du marché, ce que j'appelle le fondamentalisme du marché, le marché, ce que je m'amuse à appeler le dieu marchand dans mon bouquin, à coloniser plus que ne l'ont fait tous les empires coloniaux de la planète, que ce soit la première colonisation du XVIe siècle, hispanique, à la seconde, d'Europe de l'Ouest du XIXe siècle, à coloniser tous les territoires de la planète. Et au-delà, tous les territoires du vivant. Et pas seulement les territoires géographiques de la planète. Plus rien n'échappe à sa mainmise aujourd'hui, puisque tout, absolument tout, peut produire du bénéfice. Et c'est pourquoi il a colonisé tous les territoires du vivant. Et donc, effectivement, quand on voit le monde d'aujourd'hui, eh bien, il se répand partout. Et pour satisfaire cet appétit tout à fait insatiable, ce fondamentalisme a produit, et c'est pourquoi je m'amuse à l'appeler fondamentalisme, il a produit une théologie. Il a produit une théologie, qu'est-ce qu'on appelle la théologie libérale aujourd'hui. Pourquoi je l'appelle une théologie? Parce qu'en fait, on peut la résumer par une espèce de mantra. La fameuse phrase de Thatcher, qui a été avec Reagan une des théoriciennes, si l'on peut dire, et des praticiennes de ce que Reagan et Thatcher ont appelé la révolution conservatrice. There is no choice. Il n'y a pas de choix. Ça a été le mantra de Thatcher et Reagan. There is no choice. C'est-à-dire ce marché dérégulé, mondialisé, est l'inéluctable destin de l'espèce humaine. Et c'est en cela que je l'appelle une théologie. Mais ce pourquoi ce mondial, à mon sens, ne vaut pas l'universel. Parce que sur qui règne ce Dieu marchand? Il règne en fait sur des masses immenses de consommateurs totalement individualistes et solitaires. Parce que autant cette mondialisation marchande produit de l'uniformité, mais elle produit de l'uniformité dans un monde composé de consommateurs solitaires. La consommation est un acte solitaire. Ce n'est pas un acte collectif, ce n'est pas un acte qui produit du collectif, ce n'est pas un acte qui permet de faire société, de faire collectif politique. Donc, voilà pourquoi, à mon sens, ce mondial n'est pas porteur, que cette société humaine mondialisée n'est pas porteuse universelle. Une des raisons, évidemment, je le développe. Et je peux en donner une seule manifestation. Vous savez aujourd'hui que, puisque je parlais tout à l'heure d'un marché totalement dérégulé, que les marchandises, les capitaux et les services circulent dans une quasi-totale liberté dans le monde d'aujourd'hui, les seuls qui ne circulent pas en liberté, ce sont les humains. Tout le reste circule, on dérégule absolument tout et on régule les déplacements humains. Donc ce qui montre cette dichotomie, disons, entre le mondial et l'universel. Enfin, ce qui montre entre autres, évidemment, j'essaie d'aller un peu plus loin. Mais je ne veux pas trop m'étendre, bien sûr, là-dessus. Deuxième corpus fondamentaliste, ce que j'appelle le fondamentalisme religieux. Fondamentalisme religieux dont le monde musulman a produit les formes les plus éruptives aujourd'hui, mais qui ne se cantonne pas au monde musulman. N'oublions pas les évangélismes et les pentecôtismes dans le monde protestant, qui sont évidemment des formes différentes, qui puisent à d'autres corpus, mais qui sont évidemment des formes de fondamentalisme religieux et totalitaire également, comme le sont ces fondamentalismes. Alors évidemment, première chose, aussi, excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte, c'est qu'ils ont occupé l'espace laissé libre par la faillite des utopies laïques, bien sûr. Et toutes les variantes de l'islam politique, toutes les variantes de leurs homologues évangélistes ou pentecôtistes se déploient dans l'islam mondial, dans cet espace mondialisé dont je vous parlais tout à l'heure, ont des stratégies transnationales, adhèrent au credo de la théologie libérale et n'ont absolument pas pour ambition de remédier à la misère du monde. C'est très intéressant d'ailleurs de faire certaines comparaisons, aussi bien les mouvements islamistes que les évangélismes de toutes sortes sont tout à fait ultra-libéraux dans le champ économique, complètement. Et n'ont rien à voir, par exemple, si je prends des exemples historiques un peu plus anciens, avec la théologie de la libération d'Amérique latine, qui avait des corpus tout à fait différents idéologiques. Et en fait, si on regarde les discours économiques qui Ils sont d'ailleurs très très rares. Aussi bien des mouvements islamistes que des mouvements évangélistes et pentecôtistes, on s'aperçoit qu'ils ne parlent jamais de justice sociale. C'est-à-dire que leur justice sociale se déploie dans le champ de la charité, beaucoup plus. On est beaucoup plus dans les discours de la charité que dans les discours de la justice. C'est ce qui est assez intéressant à observer. On pourrait dire là aussi, pourquoi est-ce que je dis qu'ils n'ont rien d'universel, ces mouvements. Ils se déploient dans un espace mondialisé, ils ont des stratégies transnationales, les frères musulmans sont un mouvement transnational, bien évidemment. Ils adhèrent au corpus de la théologie libérale, mais ils sont aux antipodes de tout universalisme également, puisque la rhétorique de ces mouvements est tout entière axée sur des constructions de type identitaire, évidemment. Donc, ils se situent aux antipodes des universaux. Et en fait, je crois que, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi, contrairement à ce que l'on entend souvent, les fondamentalismes d'aujourd'hui ne révèlent pas l'existence d'une crise identitaire globalisée. Je ne crois pas tellement à cette crise identitaire globalisée. Je crois plutôt qu'ils sont... Alors, cette crise identitaire qui serait le résultat de la mondialisation, moi je pense qu'ils sont plutôt des constructions identitaires, des manipulations identitaires, qui sont offertes sur le marché des idéologies à des populations qui sont tout à fait désorientées par la longueur et l'ampleur des mutations qu'elles connaissent, ou plutôt qu'elles subissent. C'est ainsi que ce qu'on peut appeler l'universel, pour aller vite, mais je n'ai pas le temps de développer les contenus, se retrouve aujourd'hui coincé entre, d'une part, la mondialisation économique et financière, qui encourage la fragmentation du monde. Pourquoi est-ce qu'elle encourage la fragmentation du monde? Parce que les vieux cadres de l'État-nation entraînent cette mondialisation, sont une entrave à cette mondialisation. Et c'est extrêmement intéressant de voir de quelle façon peuvent éclater les vieux cadres de l'État-nation aujourd'hui, par le haut, par la mondialisation, et par le bas, par l'éclatement des États-nations. On peut même le voir en Europe avec l'Écosse, la Catalogne, etc. Bon, et ailleurs, enfin, on en trouve des exemples un peu partout dans le monde. Donc, cet universel est coincé d'un côté entre cette mondialisation et de l'autre côté par les réclusions identitaires dont les entrepreneurs, tous les entrepreneurs identitaires de la planète, réfutent toute référence aux universaux de la modernité en s'accommodant très bien de la mondialisation. Donc, il y a vraiment là une réflexion, je pense, à mener entre le moderne et la modernité. La mondialisation est un phénomène moderne, bien évidemment, un phénomène contemporain. Mais c'est un phénomène qui est aux antipodes de ces universaux, de la modernité. Et ce qui est extraordinaire dans ces constructions identitaires, chez ces entrepreneurs identitaires qui s'accommodent fort bien de la mondialisation, et là aussi, il y a des questions à se poser, c'est que ces entrepreneurs identitaires réalisent la prouesse de rejeter les universaux de la modernité en arguant du fait qu'ils sont partis d'un corpus de valeurs dites occidentales. Donc, le rejet de ces universaux parce que ce serait des principes inhérents à la culture occidentale. Mais de l'autre côté, ils s'approprient les signes, les logiques, les modes de faire, les modes de vivre du capitalisme mondialisé en n'ayant absolument pas l'impression de sacrifier aux valeurs occidentales quand ils entrent dans les habits du capitalisme mondialisé. Et d'une certaine façon, en résumé, adopter le mode de consommation d'une Amérique qu'à la fois l'on vénère et l'on déteste n'est pas une trahison de l'identité. Mais adopter les universaux de la modernité est une trahison de l'identité. Et là, il y a vraiment des questions à se poser. Adopter les universaux de la modernité serait le signe d'une dépendance vis-à-vis d'idéologies étrangères.